Vous écoutez Logosphère, l'émission de reportages et d'entretiens, de rencontres et de réflexions. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est Logosphère sur les ondes d'Univers. Vous écoutez Logosphère sur les ondes d'Univers 99.9. Pour cette édition, nous allons à Entrain rencontrer Jean Touffet, qui a été professeur en écologie végétale à l'université de Rennes 1 et qui, dans son enfance, a grandi dans la forêt de Villequartier. Suite aux coupes rases qui sont menées depuis quelques années, nous l'avons interviewé pour connaître son point de vue quant à la gestion de cette forêt, ainsi que de la politique actuelle de l'Office national des forêts. Vous écoutez Logosphère sur les ondes d'Univers 99.9. Jean Touffet, vous avez été professeur à l'université de Rennes 1, directeur du laboratoire d'écologie végétale de 1972 à 2002. Voilà, en écologie scientifique, vous avez mené des travaux de recherche divers et variés et vous connaissez particulièrement bien la forêt de Villequartier dans la mesure où vous y avez mené des études et par ailleurs parce que vous y avez grandi, vous y avez passé votre enfance puisque votre père était lui-même garde forestier, donc vous connaissez aussi bien dans votre expérience vécue que dans votre carrière et votre métier, vous connaissez très bien la forêt de Villequartier, et donc vous allez nous en parler, et notamment nous parler de la gestion de la forêt de Villequartier. Qu'est-ce que vous pensez justement de la pratique des coupes rases en forêt de Villequartier qui ont eu lieu ces dernières années? À quoi cela répond?
Oui, alors, mon premier choc, ça a été quand on a, après la tempête de 87, quand on a reboisé en chêne rouve toute une parcelle à grands frais. On a déchoussé, on a travaillé le sol, on a fait des fossés n'importe comment, hein, qui ne respectent même pas la pente, donc l'eau ne peut pas remonter. Hein. On a en fait un enclos. On a enclos la parcelle. La clôture est en train de pourrir sur place, d'ailleurs, donc ce n'est pas très écologique, ça non plus. Pour y planter, c'était une parcelle humide, en plus, pour y planter des chênes rouves. Mmh. Au départ, j'ai dit, qu'est-ce que les chênes rouves viennent faire là, puisque c'est humide. Bon, 30 ans après, ouais, 30 ans après, je dois dire que les chênes sont bien. Donc, il avait peut-être raison de planter, sur le plan économique, des chênes rouves. Mmh. Mais, dessous, va voir, là, c'est pas la forêt, il n'y a plus rien. Hein, on a une plantation de chênes rouves. On n'a pas une chênaie atlantique à houx. Mmh. Même s'il y a encore quelques houx qui peuvent s'installer par là. Ça, c'est la première chose. Quand j'ai vu ensuite la grosse opération qui a été annoncée en 2016... toutes ces parcelles en bordure de forêt, hein, en bordure de la route, reboisées en chêne. En chêne. Alors que à côté, il y a des parcelles qui se régénèrent parfaitement bien. Bah, j'ai dit, c'est encore un gaspillage d'argent. Parce que j'avais dénoncé déjà la parcelle. J'avais dit combien ça coûte. J'avais dit ça à l'ingénieur des forêts, qui était un ami. Et il m'avait admis, oui, on aurait mieux fait de placer notre argent à la caisse d'épargne, qu'il m'avait dit, plutôt que de reboiser la première parcelle de chênes-rouves. Il m'avait annoncé ça, tu vois, au niveau économique. Mais là, quand j'ai vu toutes ces parcelles qui allaient... Alors, quand on parle de coupe à blanc, oui, moi je suis heurté parce que moi je suis pour la régénération naturelle avec favoriser le chêne, replanter éventuellement des chênes dans les parcelles en régénération, en complément, mais garder au moins un équilibre et surtout garder toute la végétation qui va avec la forêt.
Et à quoi ça répond? Pourquoi utiliser ces pratiques, ces techniques?
Ils l'ont appris par cœur, réchauffement climatique, essence venant du sud, mieux adapté. L'argument économique, je ne retiens pas. Quand on dit « mais le chêne se vend mieux que le hêtre », quand il n'y aura plus de hêtre, le hêtre sera un bois précieux. Il sera peut-être aussi cher que l'ébène maintenant. faut penser à ça. Parce que le forestier, il devrait raisonner non pas en fonction de ce qui se passe maintenant, mais qu'est-ce que ce sera dans 100 ou 150 ans? De quoi aura-t-on besoin dans 100 ou 150 ans? Est-ce que le hêtre ne sera pas recherché, même s'il est rare et même s'il a disparu en grande partie? Et puis, bon, en tant que naturaliste de base, moi je suis pour « laissons la nature ». Je dis que si, bon, si j'avais la forêt de Villequartier, je la laisserais naturellement. Et je pense qu'économiquement, eh ben, ce serait aussi intéressant. Si tu as une parcelle, alors moi, je suis pour ce qu'on appelle le recru forestier, laisser bon, favoriser ce qu'on veut conserver ou ce qui a de valeur, mais laisser toutes les espèces s'exprimer comme ils le veulent, comme ils l'entendent. C'est ça la liberté pour les arbres. Je réclame la liberté pour les arbres.
Qu'est-ce que vous pensez aussi du fait de planter en linéaire oui, c'est ça,
oui,
en
rond. On va te dire, on est tributaire de la mode écologique et de la mode technologique. Alors, faut planter en ligne pour pouvoir passer des gros engins. C'est tout.
Donc c'est juste une affaire de machine.
C'est une machine de traitement, oui.
Et de votre point de vue, justement, de naturaliste, en matière de biodiversité, quelles conséquences ça a?
Je voudrais bien penser que, parce que c'est ce que me disent les forestiers, ils disent « Oh, mais de toute façon, les hêtres reviendront, les autres essences reviendront ». Moi, quand je me promène en forêt, je vois que la strate arbustive est beaucoup plus pauvre qu'autrefois. Même la strate herbacée et la biodiversité, c'est tout ça. Alors, au niveau de la faune, est-ce que certaines espèces animales, y compris les petites espèces animales, aiment mieux le hêtre que le chêne, ou est-ce qu'ils supportent aussi bien l'un que l'autre? Je ne peux pas savoir ça. Non, et puis surtout, il cache avant tout l'argument productiviste, hein, peut-être. Ce qui est dommage, tu vois, c'est que ce type de chêne hêtrain acidophile, il y avait Fougères et Villequartier. À Villequartier, je peux te le montrer sur l'ancienne carte, toute la forêt, c'était une chêne hêtrain. Maintenant, si on retranche toutes les parcelles qui ont été enrésinées et toutes les parcelles qui ont été replantées en chêne Cécile, il y a la moitié de la forêt qui disparaît. En tant que chêne hêtrain, en tant que milieu naturel...
Comment dire, il y a quand même une réalité, c'est qu'il y a un réchauffement climatique, une augmentation des températures avec des conséquences, avec cette idée, cette notion que les essences forestières existantes ne pourront pas résister à l'augmentation des températures. Vu leurs besoins en eau, vu les ouais. Espèces parasites qui peuvent émerger et qui n'existaient pas auparavant, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, j'aime mieux voir que prévoir. J'aime mieux voir que prévoir. Si ça existe, on verra comment ça évolue. Et on interviendra à ce moment-là, il y aura tellement de moyens. Le réchauffement climatique, c'est évident que... Je ne suis pas un climato-sceptique, mais je me méfie des modélisations. Hein. Regarde un peu, même pour le virus, là, combien de modèles se sont cassés la gueule, combien de modèles s'affrontent. Je suis un peu sceptique sur la modélisation. C'est pour ça que j'aime mieux voir ce qui se passe et intervenir sur ce qui se passe. Quand tu verras, parce qu'on n'a pas encore beaucoup vu de hêtre mourir à Villequartier, hein. Même en 76, où l'année a été beaucoup plus sèche que toutes les années qu'on a eues. En 76, il y a eu quelques hêtres qui sont morts sur les talus, parce qu'il était isolé. Mais en forêt, où ils se touchaient, où ils formaient, il n'y a pas eu de hêtres à mourir. Alors peut-être que les forestiers disent « Ah, mais ça les a appauvris ». Mais ce n'est pas vrai, ça ne les a pas appauvris. Alors c'est vrai, le hêtre, quelquefois, il a un parasite là qui l'affaiblit un peu, mais c'est pas forcément dû à la sécheresse. Et puis, ben, on les arrosera. On arrose bien le maïs.
Oui, la possibilité d'imaginer des rétentions d'eau, peut-être plus grandes, en forêt, non?
Oh, oui.
Non, ça c'est une idée.
Non, c'est normal. Oh oui, en forêt. Je réclame en forêt depuis longtemps, mais c'est folklorique un peu. Autrefois, la population était un peu concentrée autour de la fontaine du Seigneur. La fontaine du Seigneur, ben c'est une source qui arrive dans un ruisseau, qui est le ruisseau de la fontaine du Seigneur. Il y avait autrefois une grande mare d'eau. Alors, quand je vois tous les travaux qu'ils font et que je réclame, moi, trois coups de tractopelle pour reconstituer la mare et pour voir à nouveau la fontaine couler, ça n'aurait pas coûté plus cher. Ça, ça aurait été écologique. Et dans la mare, peut-être qu'on aurait vu des tritons. Autrefois, j'ai vu trois espèces de tritons à Villequartier. Ben, tu n'en retrouveras pas trois espèces de tritons, dont le triton crété, qui était très rare.
On parle beaucoup d'écologie aujourd'hui. Qu'est-ce que, de votre point de vue, une forme de gestion forestière écologique? En quoi ça consiste?
Je serais rétrograde si je te disais « laissons la nature agir ». Et aidons là le mieux possible.
Les critiques qui peuvent y avoir, qu'on assiste à une industrialisation et une intensification de l'exploitation forestière, c'est une réalité ou pas?
Non, je pense que non, je ne pense pas qu'on oui, ça avait été sous-entendu la dernière fois et c'est là-dessus qu'ils se sont défendus. Je ne pense pas qu'on exploite plus de bois qu'on en produit. Mais indépendamment de ça, quand je vois, je te dis encore, je reprends ça, toutes les parcelles qui sont coupées à blanc là, quand je vois que ces parcelles-là, on aurait laissé la nature agir, ça n'aurait strictement rien coûté à l'ONF et donc au contribuable que je suis. Et quand je vois les travaux qu'il va falloir entreprendre pour reboiser artificiellement pour faire un boisement artificiel. C'est plus naturel, c'est artificiel. Eh ben, c'est du gaspillage. Moi, si la forêt m'appartient, moi, je laisse la régénération naturelle se faire. Je gagne peut-être un peu moins in fine, mais je ne dépense pas la somme folle qu'ils vont dépenser pour reboiser en chaîne toutes leurs parcelles. Alors qu'ils ne viennent pas se plaindre en disant qu'ils sont en déficit, en supprimant les postes de forestiers, en prétendant qu'ils ne peuvent plus entretenir les routes, en n'entretenant pas les lignes de coupe, en ne recurrant pas les fossés.
Donc c'est, d'une certaine manière, c'est l'excès de chantier et de chantier forestier, de travaux forestiers.
C'était des ingénieurs des travaux. Pour qu'ils soient ingénieurs, il faut qu'il y ait des travaux.
La question se pose aussi à une échelle pas simplement que la forêt de Villequartier, pour le coup c'est une échelle qui est beaucoup plus vaste qui correspond aussi à celle de la France plus généralement.
Alors pourquoi je suis un peu dur avec la forêt de Villequartier, c'est qu'en Bretagne on n'a pas beaucoup de forêts domaniales. On devrait justement les préserver, on devrait comment veux-tu imposer des règles aux autres forêts si tu ne montres pas l'exemple au niveau de la gestion écologique, de la gestion rationnelle?
Et ça consiste en quoi, justement, là, une gestion rationnelle,
ouais,
selon vous?
Pour moi, la gestion rationnelle, c'est d'être un peu plus proche de la nature. C'est de laisser la nature agir et d'améliorer ce qui peut être amélioré, d'aider la nature, de favoriser les essences qui nous semblent les plus nobles ou qui nous semblent le plus d'avenir, mais pas forcément éliminer les autres.
Et à quoi ça répond?
En 1964, il y a eu un décret qui a supprimé l'administration des eaux et forêts et qui a créé un Office national des eaux et forêts. Parce qu'on considérait, les politiques considéraient que fallait stimuler la production. C'est la période du productivisme qui était générale, y compris dans l'agriculture, surtout dans l'agriculture, mais qui a touché aussi les forêts. Donc, fallait produire davantage. Alors, petit à petit, ils ont voulu prendre à tout prix l'étiquette écologique, encore plus maintenant. C'est pour ça que c'est gros comme une maison de dire qu'il y a le réchauffement climatique, qu'on est des écolos à 100%. Ça n'a rien à voir avec la protection d'une zone naturelle. Il y a eu même des manifestations, je me souviens, là, au tout début, en forêt de Camors en particulier, il y a eu pas mal de manifestations sur la politique forestière de l'ONF. Et puis, l'ONF, ensuite, il y a eu quand même aussi des directeurs régionaux, parce que je crois que le directeur régional a une grosse importance sur l'aménagement de sa région. Il y a eu des directeurs des eaux et forêts, des directeurs d'ONF qui ont été des anciens officiers des eaux et forêts. Je pense en particulier Jacquiot a dû être remplacé par Julienne, peut-être pas directement, mais Julienne, c'était un officier des eaux et forêts, un officier des eaux et forêts type administration forestière, qui a ensuite d'ailleurs a été délégué régional à l'environnement, donc qui était non seulement forestier mais écologique. Donc, tu vois, la politique initiale a été nettement tempérée. Et puis ensuite, plus récemment, je crois que pour se donner bonne conscience, on conserve une touffe de houx dans une parcelle, alors qu'autrefois, on faisait détruire le houx. De toute façon, le houx, il repousse partout, donc je ne vois pas la nécessité de garder une touffe de houx. On garde un ou deux arbres morts. Parce que c'est presque des gadgets pour moi.
Vous disiez justement qu'il y a beaucoup moins de gens à travailler dans la forêt quotidiennement.
Oui, là c'est un autre aspect je prétends, c'est que tous les gens qui travaillaient en forêt, depuis l'indigent qui venait ramasser son bois, le bûcheron qui était là plusieurs mois, le forestier qui était là des années, tous ces gens-là, ils aimaient la forêt. Maintenant, il faudrait en forêt, les gens qui travaillent en forêt, il faudrait qu'ils aiment les arbres et la forêt. Et ça va depuis le directeur jusqu'au bûcheron. Il faudrait que les gens qui travaillent en forêt aiment les arbres et la forêt. Attention, mon père était passionné par sa forêt. Mon père, deux jours avant de mourir, je l'ai conduit, il n'est même pas sorti de la voiture. Mais il a voulu dire au revoir à sa forêt. Je peux me permettre de dire ça, parce que je suis d'une autre époque, c'est plus maintenant la même chose, c'est du passé. Mais c'est bon qu'on sache ce qu'a été le passé. Je ne demande pas d'y adhérer, c'est pas possible. C'est pas possible, il faut vivre avec son temps. Allons-y, débardons les armes en hélicoptère maintenant, parce que c'est ce qui va arriver, pourquoi pas. Pour pas abîmer les sols, tu débardes des armes en hélicoptère. Tiens, bonne idée pour un écologiste. C'est ce qu'on fait en montagne. Alors, moi je pense, ils veulent être en pointe de l'écologie. Ils veulent s'affirmer écologique. C'est plus ça que ramasser plus de sous sur l'affaire qui nous concerne, sur Villequartier. Parce que maintenant que leurs chaînes sont vendues, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Ils vont avoir que des frais. Pendant la terreur, là, pour mettre fin aux attaques qui avaient lieu en forêt de Villequartier, on avait voulu couper de part et d'autre de cette route-là une bande de 50 mètres de part et d'autre. Et c'est des forestiers qui étaient intervenus pour la préserver. Hein, c'était en 1796, ça, en 1944, là. Quand les Allemands ont voulu couper de part et d'autre de la forêt, c'est les forestiers, c'est mon père en l'occurrence à l'époque, qui a marqué tous les arbres pour préserver la forêt, pour qu'il n'y ait pas une coupe à blanc. Et puis maintenant, on va faire une coupe à blanc.
Le long de la route.
Pas simplement le long de la route, mais dans toutes les parcelles le long de la route.
Quant à la protection, vous êtes naturaliste, par rapport à la protection des espèces, est-ce que vous pourriez nous, nous dire justement ce qu'il en est. Comment vous envisagez justement la protection de l'environnement et notamment des espèces, de la faune, de la flore ?
Je ne suis pas très très chaud pour la protection des espèces. Bon, des espèces en voie de disparition, il faut les recenser, il faut savoir dans quel milieu elles vivent et il faut surtout préserver les milieux où elles vivent. Et je suis pour la protection des milieux beaucoup plus de... C'est pour ça que j'ai participé activement aux directives Habitat. Les directives Habitat, ça définit des milieux avec la liste des espèces qui y sont inféodées. Et c'est ces milieux-là qu'il faut absolument préserver. Et c'est en cela que la forêt de Villequartier, c'est un habitat particulier, avec même des sous-habitats, une diversité d'habitats dans le domaine de la chênaie.
Senza nulla facile.